France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Hier, on s'est quitté avec le corps solo historique de l'Orchestre National, Louis Courtina. Je n'ai encore rien dit, depuis que j'ai commencé cette série, d'une autre grande figure de l'orchestre. C'était l'alto solo des années d'après-guerre, Micheline Lemoine. Et puisque nous sommes à l'avant-veille de la Journée internationale des droits des femmes, c'est l'occasion de vous dire que l'Orchestre National a été pionnier en la matière, comme souvent les orchestres de radio. Alors à l'époque, les mauvaises langues disaient que c'est parce qu'à la radio, on ne les voyait pas. En tout cas, la première femme non harpiste est entrée à l'Orchestre de l'Opéra de Paris seulement en 1974, alors qu'il y en a eu dès la fondation du National en 1934. En 1938, elles étaient 14 exactement, sur 80 musiciens. Micheline Lemoine a été la première à un poste de soliste et aussi la première en France à enregistrer le concerto pour alto de Bartok.
Thank you.
une grande dame de l'alto et de l'Orchestre National, Micheline Lemoine, qui a enregistré ici en 1955 le concerto de Bartok. Il y a sur le site de l'INA, je demanderai à Soizic Noël de vous mettre le lien sur le site de l'émission, un extrait d'une émission télévisée de 1963 où Bernard Gavotti interviewe Micheline Lemoine. Il lui demande combien de femmes compte l'Orchestre National. Elle répond 25 sur 107 et il dit sur un ton très sentencieux, c'est une bonne proportion. Et là, c'est révélateur, car elle se contente d'un petit sourire gêné, sans oser répondre que ça pourrait être plus, même si elle n'en pense pas moins, visiblement. Alors, à l'époque, 1963, ça fait un pourcentage de 23% de femmes au national. Dans le national d'aujourd'hui, j'en ai compté 39 sur 110, ça fait 35%. On a avancé, mais on n'y est pas encore. Je reviens à mes années 50 et 60, sans directeur musical, de plein exercice, donc avec beaucoup de chefs invités. J'ai évoqué les grands Français, mais dès après-guerre, arrivent quelques étrangers qui vont marquer et même façonner l'orchestre dans d'autres répertoires. Le premier d'entre eux est le Polonais Paul Kletzki, dont je vous ferai le portrait la semaine prochaine. En attendant, il suffira de dire que Henri Barrault l'a beaucoup fait venir à la radio à la fin des années 40. Au départ, c'était pour compléter Manuel Rosenthal, qui programmait surtout de la musique moderne, ce qui est très bien en soi, mais au risque de négliger le travail de fond sur le grand répertoire germanique et d'Europe centrale. Et là, l'expérience de Kletzki est précieuse, dans Dvorak, par exemple. Thank you. Charme slave du chef Paul Kletsky dans la première des danses slaves, opus 46 de Dvořák. Alors, au moment d'aborder l'apport des chefs invités dans les années 50 à la tête de l'Orchestre National, peut-être qu'il est utile de rappeler qu'à l'époque, l'identité sonore des orchestres est encore très marquée. Le National est typique du jeu français de l'époque, clair, articulé un peu comme la voix des speakers de l'époque, très typé aussi avec le vibrato des instruments avant, une grande légèreté d'archet pour les cordes qui donne un son peut-être plus mince qu'en Allemagne ou aux États-Unis, idéal pour la transparence de Ravel et de Debussy, mais peut-être parfois un peu léger pour la musique allemande. Le grand chef autrichien Josef Krips, qui a souvent dirigé à Paris à l'époque, a très bien résumé ça en répétition un jour en disant aux musiciens français: vous voyez, le problème, c'est que vous jouez Brahms, nous on joue Brahms. Tout est résumé. Alors, justement, pour enfin jouer la musique allemande comme elle le réclame, on a fait appel à des spécialistes, en particulier Karl Schuricht, qui venait beaucoup dans les années 50, né en 1880. Donc, à l'époque, c'est plutôt un vieux monsieur. Il avait 17 ans à la mort de Brahms, justement. Autant dire qu'il était chez lui, dans la musique de Beethoven, Brahms, Bruckner, chef d'une grande maîtrise, mais aussi un humaniste, aimé des musiciens, et qui a adoré les guider dans cette découverte de la musique allemande. C'est lui, par exemple, qui a enregistré la première intégrale des symphonies de Beethoven avec un orchestre français, sauf que c'était pas le National, c'était la Société des concerts du Conservatoire, mais au même moment, il était souvent à la tête de l'Orchestre National. Par exemple, ce 24 mars 1959, dans une quatrième de Brahms, Brahms a indiqué pour le final « Energico e passionato ». Et ben, ma foi, je trouve qu'on a les deux. Cette quatrième de Brahms très intense, dirigée par Karl Schuricht, a été enregistrée au Théâtre des Champs-Élysées, comme la plupart des concerts de l'Orchestre National après la guerre. On n'est plus à l'époque d'avant-guerre, où c'était surtout un orchestre de studio. Il s'est entre-temps imposé comme orchestre de concert. À la même époque, pour les répertoires plus tardifs, intervient quelqu'un qui a beaucoup compté aussi dans l'histoire de l'orchestre. C'est Yasha Horenstein. De lui aussi, je vous ferai le portrait bientôt. Un austro-russe formé à Vienne et qui est chez lui dans la musique de Mahler et de l'école de Vienne, justement. À l'époque, il faut dire qu'à Paris, Mahler est une rareté absolue. L'Orchestre National découvre ses partitions et Horenstein dirige la Symphonie Résurrection dès 1952. Plus tard, dans les années 60, c'est le Hongrois Georges Sébastien qui se chargera de guider l'Orchestre National dans ses premières expériences mahlériennes. En 1961, je vous signale, ce sera même la première à Paris de la troisième symphonie, 60 ans après la création. Yasha Horenstein poursuit aussi le travail entrepris par Rosenthal pour découvrir l'école de Vienne, en particulier Alban Berg. C'est le National avec Horenstein qui donne la première française de Wozzeck en 1950, soit 25 ans après la création. Et ce 4 mai 1953, c'est dans Les Lieders sur des poèmes de Peter Altenberg que Horenstein accompagne la magnifique mezzo-soprano grecque Irma Kolassi. Écoutez aussi comment il fait sonner l'orchestre. C'était l'un des Altenberg Lieder d'Alban Berg par Irma Kolassi et j'allais presque dire surtout l'Orchestre National dirigé par Yasha Horenstein. Alors, Kletzky, Schuricht, Horenstein, ce sont les invités réguliers. Et puis, il y a les très grands noms qui font occasionnellement une halte au national. Furtwängler, à Besançon, en 54, quelques mois avant sa mort. Sir Thomas Beecham, qui emmène l'orchestre à Édimbourg et enregistrera aussi une Carmen de référence avec Victoria de Los Angeles et Nikolai Gedda. Et puis, au mois de mai 1955, c'est l'immense Bruno Walter qui est là pour 2 semaines à Paris. Il vit aux États-Unis depuis que les nazis l'ont forcé à l'exil, mais maintenant il revient en Europe quand sa santé le lui permet. Et que dirige-t-il au national ? Eh ben, la musique de son maître et mentor, Gustav Mahler, bien sûr, la 4e en l'occurrence.
Thank you.
Ils avaient eu Toscanini dès 1935. 20 ans après, c'est Bruno Walter qui vient diriger l'Orchestre National dans cette 4e symphonie de Mahler. Une musique que les membres du National découvraient, concert du 12 mai 1955, qui met fin à l'épisode du jour, réalisé par Marie Groux, avec Marie Le Peintre à la console. Demain, ce sera l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes. À midi, sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.